ToraBox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un enseignement de
Madame Vanessa Benzaken.
Bonne écoute et bon limoud.
Ça c'est une première, on va dire, indication de l'approche correcte, de l'approche positive vis-à-vis de nous-mêmes. Quel autre facteur endommage l'image personnelle? À part les critiques ou les remarques ou les échecs mal gérés, ça va, j'ai assez classé. Il y a une troisième catégorie qui endommage l'image personnelle et c'est ce qu'on appelle Rigshei Asham, les sentiments de culpabilité. Et là, ça va être pour moi l'occasion très heureuse. Shalom. Ça va être pour moi l'occasion très heureuse d'établir enfin une distinction claire entre deux choses qui se ressemblent mais qui ne sont pas du tout la même chose. Par bonheur, l'an dernier, le Rav Yaakov Sonnen nous a fait un cours que sur ça, Rigshei Ashma, sur les sentiments de culpabilité en tant que conseiller, pas en tant que rinour. Et enfin, on a pu y voir clair dans toute cette histoire-là. La fois dernière, vous vous rappelez, je vous ai raconté une petite histoire un peu éprouvante. Vous vous souvenez de ce petit garçon qui a été envoyé de l'autre côté de la pièce, vous vous rappelez, oui? Voilà, je ne la re-raconte pas, je ne vais pas se faire de la torture. Donc, qu'est-ce qu'on a conclu de ça? On a conclu que un relationnel négatif dans le creuset éducatif génère un amas diffus de sentiments de culpabilité sur l'enfant. Et l'enfant, il va devenir grand et il va emporter avec lui cette mare de sentiments de culpabilité sans pouvoir définir d'où elle vient, ni sans pouvoir définir la cause, ni sans pouvoir définir quelque chose de très précis. Alors, j'ai appelé ça un relationnel négatif dans la forme poussée des mauvais traitements. Trasverhalila, d'accord? Tout ça crée chez l'enfant des sentiments de culpabilité. Quelqu'un pourrait me dire, mais attends, c'est pas logique. Au contraire, c'est pas lui qui est, il est la victime, il n'est pas le bourreau. Comment est-ce possible que ça crée chez lui des sentiments de culpabilité? On a vu la dernière fois que l'enfant n'a pas les outils, n'a pas d'échelle de valeur éthique. Et lorsqu'il voit un adulte ou son parent qui se conduit mal envers lui, il pense que c'est lui qui est mauvais. D'accord? C'est comme ça qu'il intègre. Comme ça sont faites les choses. Donc, comme c'est ça sa norme, donc il pense que c'est lui qui est mauvais. Alors, il y a aussi plein d'autres cas où c'est pas forcément ni des mauvais traitements, ni des relations négatives, mais des foyers éclatés, des choses comme ça. L'enfant, il emporte avec lui aussi des sentiments de culpabilité. Il pense que c'est de sa faute. Ça n'a aucune cause rationnelle. Mais c'est comme ça que ça se passe dans le monde de l'enfant. D'accord? Maintenant, cet enfant, quand il devient grand, il emporte ce paquet de sentiments de culpabilité. Remarquez que c'est au pluriel. Rigshei Ashma. Et qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça ternit son image personnelle. C'est-à-dire qu'en grandissant, il continue de grandir avec une image personnelle négative. De par ces sentiments de culpabilité-là, qui ne sait même pas les définir d'où ils viennent. Ouais. Ça fait une impression générale d'image personnelle négative. Donc, il va devoir la saigner, ça. Parce que ça le dérange dans son travail. Ça le dérange dans sa avodat Hashem. Alors, si c'est comme ça, on est en train de dire quoi? Que ces sentiments de culpabilité, ils ne sont pas bons. Mais pourtant, dans nos référentiels à nous, apparaît clairement la notion de Hashem. La notion de culpabilité. Hashem, nous, Bagad, nous, ouais. Alors, le Rav Yaakov Sonnen, il a établi une distinction claire, enfin, entre ce qui s'appelle Hashem Torani, Verikshe Hashma. Extraordinaire. Hashem Torani, ça veut dire un sentiment de culpabilité, on va dire, Torani, selon nos sources à nous, il y a une définition. Rigshei Ashma, des sentiments de culpabilité diffus, c'est une autre définition. En fait, c'est pas du tout pareil. Mais comme le terme est le même, on a un problème sémantique. Le terme est le même, alors nous, on confond les deux. D'un côté, on entend de partout, c'est pas bon les sentiments de culpabilité. D'un autre côté, on entend aussi, on est juif, Shomrei Torah Mitzvot, on entend bien qu'elle a une place, la culpabilité. Alors, comment on fait le clair dans cette salade? Voilà le clair. Il nous dit comme ça, le Rabbi Yaakov Sonnen, il nous a dit, Hashem Torani, un sentiment de culpabilité, c'est qui est Torani, donc, c'est un sentiment de culpabilité qui est ciblé, localisé, attaché à un acte spécifique. Ouais. Et ça, c'est pourquoi, ça sert à quoi cette histoire-là? Ça sert à produire le regret. Ça sert à produire la charata. Ok? Et c'est un inconfort ponctuel que HaKadosh Baruch Hu, il a créé en l'homme pour le protéger. C'est-à-dire que quand un homme il se conduit mal, automatiquement on lui monte un sentiment de culpabilité. J'ai dit un sentiment de culpabilité. Pourquoi? C'est pour son bien. C'est pour que l'inconfort le pousse à changer ou à se reprendre ou à ne pas perdurer dans cette chose-là. C'est un cadeau du ciel. D'accord? Ce Hacham Torani, c'est-à-dire cette notion de culpabilité saine, normale, elle vise à produire en l'homme ce qu'ils appellent Harata, le regret, pour le mettre en selle dans tout ce qui est le processus magnifique qui s'appelle la Tshuva. D'accord? Donc tout ça, c'est très bien. Tout ça, c'est sain, c'est normal et c'est impeccable. Mais ça, c'est pas du tout Rikshei Hashma. Parce que Rikshei Hashma, c'est des sentiments de culpabilité diffus qui ne sont pas attachés à quelque chose de précis. Ça n'a rien à voir. Donc nous, ce qu'on veut décrier, ce qu'on veut négativer, c'est ces sentiments de culpabilité diffus qui viennent, je vous dis, notamment d'un relationnel négatif dans le creuset éducatif, de mauvais traitements ou de toutes sortes de choses, on va dire qu'on n'aurait pas souhaité dans le creuset éducatif. Ça va? Pour l'instant, c'est clair? Donc l'enfant, il en intègre des sentiments de culpabilité, il pense que c'est lui qui est fautif. C'est pour ça que dans ces traitements-là, les gens, ils ont eu des mauvais traitements, chas v'chalila. Il faut les dégager de ces sentiments de culpabilité. Parce qu'ils pensent que c'est eux les coupables, alors qu'ils sont les victimes. D'accord? C'est très complexe, toute cette mécanique. Ok? Mais là, on est en train de voir quoi? Sans aller dans les extrêmes, d'accord? On est en train de voir que, étant donné que l'homme contemporain, il transporte dans son parcours de vie beaucoup de sentiments de culpabilité, ça, effectivement, ça n'a rien à voir avec ce qui s'appelle Hacham Torani. Il nous a dit, les grands d'Israël, il a entendu une fois d'un grand, qui a dit, quand il y a eu quelque chose qui pose problème, on sent cet inconfort, on regrette, on rentre dans le processus de tshuva, et c'est fini! On ne repense pas sempiternellement à cette chose-là! Vous avez compris? Il y a un processus sain et un processus qui ne l'est pas. Donc nous ici, on a fait le clair, j'espère. Le sentiment de culpabilité tel quel, il est bari, il est normal, il est sain, et on ne veut pas rentrer dans des systèmes qui sont étrangers à nous, où comme ils ont senti qu'il y a un problème avec le sentiment de culpabilité, ils ont donc invalidé complètement la notion de culpabilité. Ne te sens plus coupable de rien, fais n'importe quoi, et sens-toi très bien avec ça. C'est pas ça ce qu'on dit, nous. Nous, on dit qu'il faut se départir ou assainir, ou rationaliser en tout cas, toute cette mare de sentiments de culpabilité diffuse qui n'a pas sa place, qui n'a pas de justification, elle se repose sur rien et elle nous embête beaucoup. Mais par contre, un sentiment de culpabilité ciblé, ponctuel, sur un acte négatif qu'on a fait, ça c'est normal, ça c'est bon. Et c'est bon dans la mesure où il fait partie d'un processus, pas une boucle. Ouais, un processus, un point dans la ligne. Ce point, c'est pour réveiller la charata, le regret. Une fois que je suis arrivée à charata, où je vais? Le regret. Où on va? Vidouille. Pourquoi on va à vidouille? C'est extraordinaire. Extraordinaire. Vidouille, c'est la verbalisation. Pourquoi on a besoin de faire ça? C'est Kadosh Baruch Hu, il nous a donné le mode d'emploi de l'homme. Il connaît l'homme, celui qu'il a créé, donc il connaît le mode d'emploi. Pourquoi c'est si important, vidouille? Parce que d'une certaine manière, en ayant verbalisé, j'ai expulsé la faute de moi. Et puis plus encore que ça, tant que c'était intérieur à moi, c'était dans le monde de la pensée, dans le monde de l'intérieur, c'est un monde qui est infini. Lorsque je l'ai défini et fermé dans la parole, c'est devenu dans un monde fini. Et puis en plus, je l'ai expulsé, c'est sorti de moi. C'est pour ça qu'on dit Daga Belevish Yesichena. Quand quelqu'un il a un souci ou un tracas ou quelque chose qui l'embête, qu'il en parle. C'est pas juste des thérapies modernes. Qu'il en parle. C'est, vous voyez, nous, voilà, on a toutes ces sources-là. Yesichena. Pourquoi il doit en parler? Parce que quand c'était dans le monde de la pensée, c'était dans un monde infini. Dès lors qu'il va parler, ça devient dans un monde fini. Donc un monde fini, tu es déjà soulagé. Tu te sens déjà soulagé. Ce problème, il s'est cristallisé dans la parole. La parole, elle est finie. Donc le problème aussi, il s'est réduit. Au lieu d'être un truc indéfinissable, un truc, tu as parlé, ça y est, c'est fini. C'est dans un univers fini qui est la parole. D'accord ? Par ailleurs, Ravia, comme ça nous avait appris aussi, que la parole, outre toutes ses vertus et tous ses aspects bénéfiques, elle agrandit la moudaout de l'homme. C'est-à-dire que lorsqu'on a dit quelque chose, on l'a transcrit dans la parole, alors on arrive à une plus grande conscience de la chose. Il nous avait dit, c'est pour ça que sous la choupa, le monsieur, il dit, qu'est-ce qu'il dit ? Arrête mes coups d'échette. Il doit le dire. Pourquoi il doit le dire ? Et on sait très bien qu'elle est mes coups d'échette. Il doit le dire. Qu'est-ce qu'il a dit à les moudaout à chigvoa ? Pour arriver à la conscience la plus haute de la chose. Il doit le transcrire dans la parole. Nous aussi, on sait très bien, on a vu déjà ensemble ces choses-là, que parfois il faut dire le shem mitzvah tonek shabbat, tu manges pour shabbat. Tu ranges la maison, l'ichvot shabbat kodesh. Pourquoi tu dois le dire? Parce que la parole, elle a cette vertu-là, d'agrandir la moudaout du ben adam, d'agrandir sa conscience de la chose. Ça devient plus puissant chez lui. Oui, d'un côté, ça devient plus puissant dans le positif. D'un autre côté, quand c'est des problèmes, ça devient moins puissant parce que ça ferme dans un monde fini qui s'appelle la parole. D'accord ? Regardez comme c'est extraordinaire. Alors donc, il y a vidouille. On sort, on verbalise. Et après, il y a Kabbalah Léatid. Je ne suis pas venue faire un cours en Elul, hein, mais c'est l'influence de la choule. J'espère qu'on ne se rappelle pas qu'en Elul de faire ça. Ouais. Après, on a Kabbalah Léatid. On prend sur nous pour le futur. Alors, les angoissés de service, ils disent, je ne vais pas prendre sur moi le futur. D'abord, comment je peux savoir si je ne vais pas retomber? Et puis d'abord, me connaissant, ah, et ça y est, c'est hein. Me connaissant, moi, je ne vais pas, je ne sais pas. Alors, pour les angoissés de service, il y a une porte de sortie. C'est que si au moment T, à ce moment-là, il ne veut pas récidiver, c'est valable. D'accord? Regardez comme ce système est sain. Sans le T. C'est un système d'autorégulation de l'homme. Alors tout ça, c'est magnifique. Alors pourquoi on n'utilise pas plus souvent cette merveille ? C'est ce que j'appellerais un mécanisme de régulation de l'homme. Et c'est extraordinaire ! Sentiment de culpabilité, localisé, regret, vidouille, verbalisation, et on prend sur nous, et on est Bria Hadasha, c'est-à-dire une nouvelle créature. Et encore plus que ça, dans la protectia. Encore plus que ça. Lorsque la tchouva, elle est faite be'ahava, même l'erreur, elle se transforme en mérite. Vous avez un système d'une telle brioute. C'est pile et plein, c'est une merveille. Est-ce que tu veux chercher des trucs compliqués? Tout est là. Alors pourquoi on n'utilise pas plus souvent ce mécanisme de régulation sain et extraordinaire? Pourquoi? Regardez pourquoi. Parce que quand le Ben Adam, il est plein de rikshé hacham, il est plein de sentiments de culpabilité, ben il ne peut pas entendre ce que tu dis là. Il n'y croit pas. Il peut même pas comprendre ce que tu dis. Il dit, ça serait si simple. C'est pas possible. À quoi ça sert de toute façon de changer et de faire tout ce tahalir, ce processus par rapport à une faute ou un acte négatif que j'ai commis? À quoi ça sert de toute façon, puisque je suis mauvais? Bien sûr que la personne ne dira pas ça. Mais elle sent qu'elle est négative foncièrement, qu'elle a une image personnelle d'elle-même négative. Donc elle ne peut pas croire que ça puisse être aussi simple. Et pourtant, c'est comme ça. Vous avez compris comment ces sentiments de culpabilité diffus, ils nous embêtent. Ils sont complètement négatifs. Alors qu'un sentiment ponctuel de culpabilité sur une erreur, il est parfaitement productif, il t'engage dans tout un processus qui est tout à fait sain et bon. Ça va jusque-là ? Ouais. Maintenant, si lui, il ne peut pas y croire à cet individu, on va l'imaginer qu'il y a un individu comme ça, il ne peut pas croire à ça. Pour ne rien vous cacher, il y a quelques années, quand je commençais à réfléchir de cette façon-là, c'est-à-dire changer ma façon de réfléchir, moi aussi je ressentais comme ça. Mais ça serait trop simple. Quoi, c'est pas possible. Juste comme ça, tac, tac, ta vidéo. Et ça y est, c'est pas possible. J'avais du mal à le croire. Maintenant, j'ai moins de mal, Baruch HaShem, à le croire. Et je me rends compte à quel point c'est un moteur de progression dans la vie. C'est extraordinaire. Alors celui qui ne peut pas croire ça, qui dit en quoi ça va aider de corriger, de toute façon je suis négatif, celui-là, on peut lui opposer de nombreuses preuves dans nos sources à nous. De nombreuses preuves, pas juste de la part l'autre. Hein. Regardez, on vient de passer, c'était pas prévu dans le cours, mais Mishamaim, on vient de passer la paracha Kitissa. Il y avait le prêt à Hegel. La faute du Vaudan. Regardez ça. C'était le midrash de ce Shabbat. J'ai dit, je ne peux pas résister. Excusez-moi. Mais... regardez ce qu'il dit là-bas. Il dit le midrash Shocher Tov. Il pose la question. Comment c'est possible que Hachem, entre guillemets, les a laissés trébucher? On dit de ce d'or, de cette génération du désert, qu'ils étaient d'or d'Ea, qu'ils étaient une génération d'un niveau spirituel exceptionnel. Et nous, on connaît ce principe que le tzadik, il est protégé de fauter. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui est très macbide sur la cacheroute. Supposons il prend un avion et la tosse de l'air, elle se trompe de plateau. Eh bien, une mouche, elle va tomber dessus, il ne va pas le manger. Il y a toujours une siyata d'ishmaïa spéciale. Celui qui fait attention à une mitzvah, Hachem, il fait attention à lui aussi. La mitzvah, elle le protège, en fait. Donc, la question qui est posée ici, par le Midrash Shocher Tov, il dit, alors comment c'est possible qu'une génération qui est arrivée à une telle tzidkout, un tel niveau de maîtrise, comment on les a laissés trébucher dans une chose pareille? Le Vaudan, regardez la réponse du Maharsha. Il dit comme ça, Hachem permet au Chet HaEgel d'exister, afin que cela donne de l'espoir et du courage au Klal Israël, dans toutes les générations. L'épisode du Chet HaEgel prouverait qu'aussi loin que la collectivité se soit écartée du chemin de la Torah, la tshuva sera toujours à sa portée. Vous voyez ce que je vous dis là? Oui, c'est le Maharsha qui dit comme ça. Et plus personne ne pourra prétendre être tombé trop bas pour retourner vers Hachem. Parce que si ça, il a pardonné. On trouve le même parallèle avec le roi Ménaché, qui a fait les plus grandes horreurs de la terre. Ils ont dit, Hachem, khatar, khatira, tachat, kisse, akavot, shelo. Il a fait tout pour lui ouvrir une tshuva qui était une tshuva de très bas niveau. Pourquoi? Pour donner espoir au futur Baalé tshuva plus tard. Que si un comme Ménaché, qui a fait des horreurs, qui a rentré des idoles dans le Beth Amigdash, dans le Saint des Saints, on ne peut même pas imaginer. Si même celui-là, on lui a ouvert un chemin de tshuva, on a accueilli sa tshuva qui était de pas bonne qualité en plus. Kal vachomer a fortiori que n'importe qui, il va être accueilli, s'il veut se corriger. Ça, ce sont des preuves, et on a encore beaucoup d'autres. Là, il se trouve que j'en ai vu ce Shabbat, incroyable, je les ai trouvés ce Shabbat, pour montrer que nos sources, elles vont lui donner tort à celui-là qui dit, mais à quoi ça sert, moi, je suis de toute façon mauvais, on va dire, toi tu es pire que ceux qui ont fait le veau d'or, toi tu es pire que le roi Ménaché. D'accord? Donc tout ça, c'est pour, Bezrat Hashem, réouvrir l'espoir et réouvrir cette dynamique extraordinaire qui s'appelle le changement.
Le cours est terminé. Nous espérons que le cours a été apprécié. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Retrouvez également sur le site ToraBox, www.torah-box.com, trois enseignements de judaïsme par des rabbanim différents sur d'autres sujets variés, et sous toutes les formes, audio, vidéo ou sous forme d'article. À bientôt.